Jules Hermina, Histoires incroyables, Le Clou. Nul ne peut nier qu'il se manifeste entre les êtres vivants, alors que les hasards de la vie les mettent en présence les uns des autres, des influences inhérentes à leur nature, et que se traduisent soit par une attraction, soit au contraire par une répulsion involontaire. C'est ce qu'on désigne vulgairement par les mots « sympathie » et « antipathie ». Mais il est à remarquer que ces manifestations présentent, selon les individus, de notables différences quant à leur valeur ou à leur intensité. La bienveillance de certains caractères peut, et cela se voit souvent, développer chez un individu une trop grande facilité de sympathisation qui l'entraîne vers les inconnus conduits sur son chemin par des accidents de l'existence. Au contraire, certains caractères dits malheureux, malveillants, ont pour premier principe la défiance et montrent à tout nouveau venu une singulière antipathie sans motif concevable. Ce sont là des extrêmes malheureusement trop fréquents. Mais il faut reconnaître que les sentiments naissant ainsi dans ces caractères de premier mouvement sont mobiles et cèdent au bout de très peu de temps à la fréquentation et à une connaissance plus complète de ceux qui en sont l'objet. Chez quelques personnes privilégiées, et c'est de celles-là qu'il faut ici parler, les sentiments sympathiques ou antipathiques se développent non pas en raison de la nature même de celui qui les éprouve, mais au contraire en raison de la nature de celui qui les inspire. Maurice Parent, un de mes collègues du ministère de... se trouvait dans ce dernier cas. Ce n'était pas un homme de parti pris. Il n'était par nature ni bienveillant ni malveillant. En général, à la première rencontre, il était froid mais sans sécheresse, poli mais sans affectation. Ne se livrant pas du premier coup, il semblait attendre que quelques circonstances guidassent son choix. Un résumé, serviable et aimable, nul ne rendait plus obligeamment un service. Et si ses véritables amis n'étaient pas aussi nombreux que le sont ceux des hommes qui donnent ce titre à toutes leurs connaissances, du moins la société qu'il s'était choisie formait-elle un véritable cercle d'affection et de dévouement. Avec ce caractère, on comprend que, de la part de Maurice, les manifestations de sympathie ou d'antipathie à première vue avaient d'autant plus de valeur qu'elles étaient plus rares. Elles procédaient évidemment d'une influence à laquelle Maurice obéissait, sans que sa volonté en fût complice. Il subissait une coercition intime, alors que, contre sa manière d'ordinaire d'agir, il témoignait clairement qu'une attraction ou une répulsion se produisait en lui à l'égard d'un étranger. En somme, j'avais reconnu pendant longtemps que ces manifestations, d'ailleurs je le répète, fort rares, se trouvaient d'ordinaire justifiées par les circonstances ultérieures. La première fois que Maurice m'avait vu, il m'avait tendu la main. Et j'ose dire qu'il avait été bien inspiré, car jamais amis ne furent plus intimes et ne méritèrent mieux l'un de l'autre. Ainsi pour quelques autres. Et au contraire, il n'était arrivé de me lier précipitamment avec des hommes que Maurice avait accueillis froidement, durement même, qu'il avait toujours évité, en dépit de mes instances. Et j'avais dû reconnaître que son instinct ne l'avait pas trompé. De ces hommes, j'avais toujours eu à me plaindre, de quelques-uns même très gravement. Je m'étais donc habitué à suivre ses avis et m'en étais bien trouvé. Cependant, en un point, nous n'avions plus tombé d'accord et je dois faire une exception en ce qui concerne une troisième personne, Charles Lambert, qui, avec Maurice et moi, travaillait au même ministère, même division, même bureau et même pièce. Maurice était commis principal, Lambert de seconde et moi de troisième classe, et il est bien entendu que nous ne conservions entre nous aucune hiérarchie et que nous nous entendions à merveille. Quand je dis « nous nous entendions », ceci demande explication. Et ici, deux portraits sont nécessaires. Je commencerai par Maurice, que nous appelions plaisamment notre doyen, quoiqu'il ne fût notre aîné que de quelques années. Maurice Parent avait 33 ans. C'était un homme de taille moyenne, mince et non maigre. Ses traits ne présentaient aucun caractère saillant, à l'exception de la partie supérieure de son visage. Ses yeux, fortement enfoncés sous leurs orbites, étaient de cette couleur indécise que les Anglais appellent « grey eyes », yeux gris. Ils étaient mobiles, vifs, mais offraient surtout une particularité remarquable. Lorsque Maurice portait son attention sur un objet quelconque, ce qui lui arrivait souvent, car il était rêveur et méditatif, il semblait que son regard devint aigu, que l'iris et la pupille se contractassent de façon à former, si je puis dire, une pointe, une sorte de vrille ou faisceau de rayons convergeant vers un point unique. En examinant de plus près ce qui me paraissait une sorte de phénomène, je constatais que dans ces périodes d'attention excessive, ses yeux déviaient sous l'influence d'un strabisme temporaire, si bien que les rayons des deux yeux convergeaient en effet plus vivement qu'ils ne le font d'ordinaire sur l'objet examiné. Et ce regard produisait sur celui qu'il subissait un effet désagréable, comme si une pointe eût pénétré dans les chairs. Et quand il se plongeait dans vos propres yeux, vous étiez obligé involontairement de cligner les paupières avec une sensation douloureuse. Maurice était depuis 10 ans dans l'administration. Son avancement n'a pas été très rapide, mais cette lenteur ne pouvait être attribuée qu'à lui-même, et il le reconnaissait. Doué d'une immense facilité, il se débarrassait du travail de la journée en quelques instants, et s'adonnait, pour sa propre satisfaction et pendant tout le reste de son temps, à des études personnelles portant particulièrement sur les mathématiques et la chimie, et il avait d'ailleurs une certaine aisance et ne conservait sa place que pour avoir un centre, c'était son expression. Il est naturellement inutile que je parle de moi, mon rôle se bornant à peu près à celui de narrateur. Je passe donc à notre camarade, ou mieux à mon camarade, Charles Lambert. Je fais cette distinction à dessein et elle sera expliquée plus loin. Il n'y a qu'un mot qui puisse bien rendre le sentiment que m'avait inspiré Lambert. C'était un garçon éminemment sympathique, à moi bien entendu. Il était de taille élevée, de forte constitution, ses épaules étaient larges, sa poitrine était puissante. On devinait une nature éminemment et vivace. La vitalité débordait en lui. Cependant, il y avait dans toute sa personne une sorte de nonchaloir, disons mieux, de prostration, qui excitait à la fois et l'inquiétude et une sorte de pitié. Il ne se tenait pas droit, mais un peu voûté. On aurait cru, à première vue, que cette vitalité dut produire chez Lambert des efforts continuels vers la vie active. Loin de là, ce grand corps semblait, avec toute sa santé, avec son exubérance de puissance, succomber sous sa propre force. Ses mouvements étaient lents, ses manières extraordinairement douces, presque câlines. Mais au-dessus de tout, Lambert était et paraissait doux et inoffensif. Sa tête était belle, des traits parfaitement réguliers, barbe et cheveux d'un châtain clair, de beaux yeux d'un bleu limpide, bien fendus et se laissant voir jusqu'au fond. Lambert réalisait, dans toute la force du terme, le type de l'employé modèle. Seul de nous trois, il était marié. Nous avions vu sa femme 2 ou 3 fois. C'était une charmante petite créature, à l'œil vif, aux cheveux noirs. Lambert vivait avec elle et sa mère. Mieux que cela, il les faisait vivre. Et que gagnait-il ? 2 400 francs par an, 200 francs par mois. Bien peu pour un ménage sur lequel pèse une charge supplémentaire, mais il n'avait pas d'enfant. Lambert était le premier au travail, et même, il faut avoir le courage de tout avouer, son assiduité était telle que bien souvent j'en avais abusé pour le prier de faire les travaux dont j'étais chargé, afin de pouvoir prendre dans la journée quelques heures de liberté. Lui ne se plaignait jamais, souriait si je lui demandais un service, et s'empressait de me le rendre. Il paraissait que son traitement modique lui suffit, car il n'avait pas de besoin, ne se permettait aucune dépense, passait toutes ses soirées en famille, en résumé, était un véritable modèle d'ordre et de régularité. Du reste, gai, bon enfant, franchement rieur, et, ce dont je lui savais gré, ne jouant pas à la victime. Lorsque Maurice et moi nous racontions avoir assisté à une partie de plaisir, il nous écoutait de toutes ses oreilles et s'amusait de nos récits. Tel était l'homme qui, depuis 3 ans, était attaché à notre bureau. Je le répète, il m'était éminemment sympathique. La première fois que Maurice l'avait vu, il l'avait longuement fixé de ce regard dont j'ai parlé. Puis quand le soir, Maurice m'avait pris le bras pour quitter le ministère, « Eh bien, homme d'intuition, lui avais-je demandé, que penses-tu de notre nouveau camarade ?» Maurice avait répondu brusquement, « C'est un infâme coquin !» Je ne pus retenir un cri de surprise. J'avais, je l'ai dit, grande confiance dans le jugement de Maurice, mais cette fois j'étais certain qu'il était absolument en défaut. Je ne voulus même pas discuter. J'attendis. 6 mois se passèrent. J'avais examiné Lambert avec le plus grand soin et j'avais constaté ce que j'ai exposé plus haut. J'aimais et j'estimais ce courageux travailleur qui ne songeait qu'à assurer le pain quotidien à sa famille. Je l'avais vu le dimanche passer gaiement dans les rues, sa petite femme au bras. J'avais été reçu chez lui. Je l'avais trouvé plein de tendresse pour sa femme et d'égard pour sa belle-mère. Un soir donc, je posai de nouveau à Maurice la question à laquelle il avait déjà si étrangement répondu. Je restais stupéfait. « Je te répète, me dit Maurice, que c'est un infâme coquin. Mais tu es fou. Oh, préfères-tu une affreuse canaille ? Oh, je te laisse le choix. Mais sur quoi te bases-tu ? Oh, je t'expliquerai cela un jour. Cela est, que cela te suffise. Que lui reproches-tu ? Connais-tu quelque grave secret dans son passé ? Il n'a pas plus de passé que nous. C'est un coquin d'avenir, mais non de passé. Ah ! Fis-je en riant ironiquement, bien que cette conviction, si fortement exprimée, me causa une douloureuse impression. Tu prédis l'avenir maintenant ? Je ne prédis pas, je sais. Du reste, tu me feras plaisir en ne m'en parlant plus, avant que je t'en parle moi-même. Notre situation était en réalité singulière. J'avais la plus grande affection pour Maurice et une amitié réelle pour Lambert. Quoique Maurice ne fît en rien paraître de l'antipathie que lui inspirait notre collègue, cependant je me sentais gêné moi-même. 20 fois dans la journée, je me surprenais à étudier le visage de mes 2 amis et à me demander « Mais pourquoi Maurice déteste-t-il ce garçon ?» Je n'y comprenais rien. Naturellement, Lambert, tout en faisant bonne figure à Maurice, n'était pas sans comprendre ce qu'il n'y avait pas de ce côté-là grande amitié pour lui. Bof, il en avait pris son parti. Tout d'abord, il avait tenté de se concilier les bonnes grâces de notre compagnon, mais Maurice lui avait répondu en riant, avec une sorte d'ironie dont seul je comprenais le sens. Parfois, au beau milieu d'une conversation, Maurice, s'adressant à moi, s'écriait « Mais je dis que c'est un hideux coquin !» Je rougissais malgré moi. Je feignais de comprendre qu'il s'agissait d'une allusion à une personne absente. Lambert, d'ailleurs, le pauvre garçon, ne pouvait pas se douter qu'il fût question de lui. Je le considérais sans qu'il s'en aperçût, et je le voyais toujours le même, avec sa physionomie placide, travaillant et piochant tout le jour. Peu à peu, cependant, et au prix de combien d'efforts, je parvins à briser la glace. une certaine cordialité régna dans nos triples relations, et pour la sceller, je proposais que désormais, tous les 15 jours, le mercredi, nous nous réunissions le soir pour boire un verre de bière et jouer au domino dans un petit café situé à quelque distance du ministère. Je dois dire un mot de ces parties de domino. Maurice était d'une force exceptionnelle à tous les jeux, mais à la condition express qu'il fît attention. La plupart du temps, il causait en poussant les dominos ou en jetant les cartes et commettait erreur sur erreur. Nous nous moquions de lui. Le café dont je parle était très fréquenté par nos collègues qui se mêlaient souvent à notre petite société. On jouait avec Maurice, on le faisait causer. Il perdait et on riait. Quelquefois, il disait « Je parie gagner la prochaine partie contre n'importe lequel d'entre vous. » On acceptait, Maurice se mettait au jeu. Ah, en ce cas-là, on pouvait lui parler, chercher à le distraire. Rien ne parvenait à l'émouvoir. Son regard prenait cette singulière fixité que j'ai essayé de décrire, et il gagnait à coup sûr. Jamais, dans ces conditions, je ne l'avais vu perdre avant l'arrivée de Lambert. Mais, chose bizarre, ou plutôt très explicable, sans doute, en ce sens que le nouveau venu était au moins d'égale force, il était rare que Maurice pût gagner une partie contre Lambert. Pour tout dire, il se retirait presque toujours ex aequo. Je dis à Maurice, oh, « Je comprends que tu n'aimes pas Lambert, affaire d'amour propre froissé, tu ne peux pas le gagner. » « T'es un sot !» me répondit sèchement Maurice. « Avant les parties de domino, je t'ai affirmé que cet homme était un coquin. Eh bien après, je l'affirme encore et plus certainement. Du reste, sois tranquille, je le gagnerai. » En effet, au bout de quelques mois, Lambert perdait comme nous tous, d'où je conclus que Maurice avait compris sa manière de jouer. J'ai dit que Lambert m'avait quelquefois emmené chez lui. Jamais il n'avait fait à Maurice la moindre proposition. Mais un jour, c'était à peu près à la moitié de la 3e année, et je parle de ce délai de 3 ans parce que ce fut à l'expiation de cette période que nous nous trouvâmes séparés par des circonstances dont je ferai plus loin mention. Un jour donc, Lambert, venant au bureau avec un visage rayonnant, nous raconta que c'était la fête de sa femme et qu'il serait bien aise si nous voulions accepter tous deux un dîner sans cérémonie et une tasse de thé dans la soirée. Pour mon compte, j'acceptais sans hésiter. Je regardais Maurice, qui, à ma grande surprise, déclara qu'il remerciait Lambert de cette invitation et qu'il m'accompagnerait. Il avait singulièrement appuyé sur le mot « remerciait », mais en somme, il acceptait. J'en fus enchanté et je profitais d'un moment de tête-à-tête pour lui serrer la main en le félicitant de s'être débarrassé de ses fausses préventions. « Ha ha !» fit-il en riant, « tu prends bien les choses !» Puis redevenant tout à coup sérieux, « n'oublie pas ce que je t'ai dit, cet homme est un coquin !»« Alors pourquoi vas-tu chez lui ?»« Parce que c'est un coquin !» Je haussais les épaules. À 6 heures du soir, nous sonnions tous deux à la porte de Lambert, qui demeurait dans une modeste rue à 5 minutes du ministère. C'était au 4e étage, le dernier d'ailleurs de la maison. Je savais que le loyer était de 400 francs. L'appartement était petit, mais très convenable, et surtout d'une excessive propreté. Bien qu'il fût évident qu'on avait donné à toute chose le petit coup de fion de la circonstance, on devinait que c'était là en tout temps un intérieur bien tenu, ou pour tout dire, tenu par 2 femmes. Lambert vint à nous, les mains ouvertes. La table était dressée dans la chambre à coucher, le lit étant dissimulé par des rideaux de Perse. Notre collègue présenta Maurice à sa femme. C'était, je l'ai dit, une gracieuse petite créature, alerte, pimpante, à l'œil brillant. Ce jour-là, elle était charmante. Ses cheveux noirs, relevés avec goût, faisaient ressortir la blancheur mâle de son teint et elle semblait tout heureuse de cette fête improvisée en son honneur. La mère de Madame Lambert, qui se nommait Madame Veuve Gérard, était une femme de 60 ans, un peu forte, à l'œil craintif, et paraissant, malgré son âge, timide comme une jeune fille. D'ailleurs, elle semblait aimer vivement son gendre, et je crois que jamais belle-mère n'avait mieux compris la passivité indispensable dans la vie de famille bien si organisée. Quant à Lambert, c'est l'homme heureux dans toute sa franchise. Pas de contraintes, un laisser-aller sincère qui me touchait plus que toutes les protestations. Il n'avait pas besoin de nous dire que nous étions chez nous en étant chez lui. Cela se sentait de reste. La soirée fut charmante. Maurice, malgré ce qu'il m'avait dit encore le matin même, semblait se livrer tout entier. Il était plein de cordialité. Je remarquai même, et ceci soit dit sans reproche, que lorsque son regard s'arrêtait sur Madame Lambert, il était plein de douceur, je dirais même de langoureux intérêt. Après le dîner, Lambert et sa femme descendirent. Car il est inutile de dire qu'il n'y avait point de servante. Maurice et moi restâmes seuls avec Madame Gérard. « Ainsi, demanda Maurice, continuant une conversation précédemment commencée, « les pauvres enfants se sont mis en ménage sans patrimoine. »« Hélas, oui, monsieur, répondit Madame Gérard. « Il y a de cela 6 ans maintenant, mais voici le plus cruel. » Mon mari avait un ami intime que j'appellerais presque un frère, et cet ami lui avait formellement promis qu'à sa mort, il laisserait sa petite fortune à notre fille. Mon mari mourut le premier, son ami me répéta sa promesse, et quand le mariage se fit, je comptais pour mes chers enfants sur cet héritage plus ou moins prochain. Mais un accident amena la mort de cet ami et il n'avait pas fait de testament, acheva Maurice. En effet, oui, vous savez ce que sont là des choses qu'on remet toujours au lendemain. C'est une faiblesse qu'il est bien difficile de blâmer. Si bien que cette dot sur laquelle pouvait compter Lambert s'évanouit tout à coup. Oh, il ne se plaignit pas. Il se mit au travail avec courage et persévérance. Du reste, vous savez aussi bien que moi la façon dont il se conduit. C'est un cœur d'or. Et quel était le chiffre de cette petite fortune? 100 000 francs. Mais entre les mains de leur mère, ce fut devenu une véritable fortune, car il est bien intelligent, monsieur, et si vous l'aviez entendu expliquer ses plans... Mais avant le désastre, bien entendu, certainement, depuis, il n'en a plus parlé. Lambert et sa femme rentrèrent dans le salon. La soirée s'écoula. Vers 10 heures, Maurice se plaignit d'une douleur névralgique à la tempe. « Vous n'auriez pas un peu de laudanum ?» demanda-t-il à Lambert. « Ben non, répondit celui-ci, ni rien qui y ressemble. Oh, cela se passe du reste. » Quelques personnes étaient venues achever la soirée chez les Lambert. Je ne fis guère attention à elles, car je ne les connaissais point. Je remarquai seulement une veuve d'une 30aine d'années assez gentille. Madame Gérard, voyant que je la regardais, me dit à voix basse et en souriant. « Si vous n'étiez pas si jeune, voilà une charmante femme et 5 ou 6 000 livres de rente. » « Et pas de testament à faire, » dit Maurice en souriant et du même ton. Je quittai la maison, enchanté de ma soirée. Je ne voulus même point, en sortant, demander à Maurice quel était son avis. Je sentais que ces préventions m'auraient fait l'effet d'une véritable ingratitude. Quelques mois se passèrent. Aucune circonstance ne se produisit, du moins à ma connaissance, qui pût influer d'une façon défavorable sur mes relations avec Lambert. Je dois reconnaître d'ailleurs que Maurice paraissait avoir abandonné son système d'ironie à l'égard de sa victime, comme j'appelais Lambert en plaisantant. Maurice ne me parlait jamais de lui. Seulement, une nouvelle invitation nous ayant été adressée par Lambert, Maurice l'avait refusée, mais très poliment. Nous continuions, comme par le passé, à nous réunir tous les 15 jours dans la soirée au café dont j'ai déjà parlé. C'était toujours les mêmes parties de cartes et de dominos. Un soir, c'était en plein été, le 12 août 1870, il était environ 7 heures. Nous avions dîné ensemble, Maurice et moi. Nous nous dirigeâmes vers notre café. Quelques-uns de nos collègues nous avaient déjà précédés. La conversation s'engagea, puis on apporta les cartes. Les parties s'organisèrent. Quelqu'un fit alors remarquer que Lambert n'était point encore venu, et le fait était d'autant plus extraordinaire que sa ponctualité était la même, qu'il s'agit du travail ou d'une partie de plaisir. 8 heures sonnèrent. Lambert ne venait pas. Je ne sais quelle vague inquiétude s'emparait de moi. « Lambert serait-il malade ? » dis-je à voix haute. « Impossible, répondit quelqu'un. N'est-il pas venu au bureau dans la journée ? N'est-il pas parti en même temps que nous, bien portant, comme à l'ordinaire ? » On me suggéra l'idée de l'aller chercher. Je ne sais qui, mais ce n'était pas Maurice, qui paraissait absorbé dans une laborieuse partie de piquet. Je pris mon chapeau, sortis du café, et quelques minutes après, je sonnais à la porte de Lambert. Il vint m'ouvrir et parut surpris de me voir. « Qu'y a-t-il donc ?» me demanda-t-il. Sa femme était derrière lui. J'entrai dans la chambre. La vieille mère se trouvait à sa place accoutumée. « Mais, répondis-je en riant, il y a simplement ceci. On vous attend au café et je vais bien vous enlever. » Lambert sembla hésiter, puis « Non, pas ce soir, dit-il. Il fait si chaud que, ma foi, j'aime mieux rester ici bien à mon aise. On étouffe dans votre café. »« Tu m'as promis de rester, » dit doucement sa femme. « Vous voyez, reprit Lambert, ma parole est engagée. »« Oh, madame, fis-je en m'adressant à la femme, nous ne vous prenons votre mari qu'une seule fois en 15 jours. Vous n'avez pas le droit de le garder, il est à nous. » Enfin, j'incitais tant et si bien que Lambert se décida. Il embrassa sa femme, qui sourit en levant le doigt comme s'il eût voulu lui exprimer un mécontentement plaisant. Il serra la main de sa belle-mère et me suivit. Sa femme nous accompagna jusqu'au palier. « Ah !» dit Lambert en se retournant, « n'oublie pas de rentrer l'oiseau avant de le coucher. Il y a eu de l'orage quelque part et la nuit pourrait être fraîche. » « Oui, mon ami. » Je note ces futiles circonstances parce que pas un détail de cette scène n'a pu sortir de ma mémoire en raison des événements terribles qui l'ont suivi. « Ma foi, me dit Lambert, comme nous nous dirigeons vers le café, je ne sais quelle paresse peut-elle être aujourd'hui, mais je m'étais bien juré cependant de ne pas sortir. »« Je suis un tentateur, répliquai-je. Mais en somme, vous n'êtes peut-être pas fâché d'avoir été tenté. » Nous arrivions. Un instant après, Lambert était engagé dans une vigoureuse partie de domino à 4. Maurice était son partenaire. La soirée se passa comme à l'ordinaire. 10 heures sonnèrent. À ce moment, la porte du café s'ouvrit violemment. Une femme haletante, essoufflée, se précipita dans l'intérieur, courut à Lambert, le prit par le bras, et d'une voix que l'émotion rendait presque inintelligible. « Monsieur, monsieur, venez vite ! Oh mon Dieu, la pauvre femme !» Nous restâmes stupéfaits. Lambert était devenu horriblement pâle. « Et qu'y a-t-il ? Qu'est-il arrivé ? » demandâmes tous d'une seule voix. Nous apprîmes alors qu'un horrible accident venait d'arriver. Madame Lambert était tombée par la fenêtre et s'était tuée sur le coup. Nous nous élançâmes aussitôt, sans raisonner, vers la maison de notre ami, qui, plus prompt que nous, courait de toute la vitesse de ses jambes. Maurice lui-même semblait très ému et m'entraînait en me serrant le bras. Nous pénétrâmes dans la cour de la maison, encombrés par les voisins et les locataires. Nous nous frayâmes un passage à travers la foule et parvînmes au milieu de la cour. Là, un horrible spectacle frappa nos regards. Une masse sanglante gisait sur le sol. La tête avait frappé le pavé et, sous le choc, s'était ouverte. La cervelle avait jailli hors du crâne. Pauvre petite femme. Tout ce corps était brisé, écrasé, mutilé. La face disparaissait sous des plaques sanglantes. Lambert était à genoux auprès d'elle. Il avait passé son bras sous le cou de la morte, et les yeux fixés sur cette horrible destruction, il restait pâle, inerte, sans voix et sans larmes. Mais on voyait tout son visage se crisper sous les tortures d'une effroyable émotion. Oh, je ne sache rien de plus terrible. Avoir quitté, il y a 2 heures à peine, une femme qu'on aime, l'avoir laissée pleine de vie, de santé, d'avenir, et tout à coup, là, sans transition, la voir sous ses yeux inanimés, défigurée, sanguinolente. Oh, c'est plus que l'on peut supporter la constitution humaine. Lambert tomba en arrière, à demi évanoui. On l'entraîna loin de cette scène déchirante. Quant à la mère de cette pauvre femme, son état était plus effrayant encore. Elle avait vu sa fille tomber par la fenêtre, et subitement, comme par un coup de foudre, elle avait été frappée de paralysie. Ses jambes avaient refusé de la porter, et elle était restée dans son fauteuil, clouée, et la tête seule et le cerveau vivant encore en elle. Et elle attendait qu'on lui remontât le corps de sa bien-aimée. Nous prîmes le cadavre sur nos bras et lentement, oh, bien lentement, comme si nous avions craint de faire du mal à la morte, qui, hélas, ne pouvait plus souffrir, nous parvînmes à l'appartement de Lambert et nous déposâmes sur le lit ses restes sanglants et inanimés. Comment l'accident était-il arrivé? Oh, comme arrivent tous les accidents! Madame Lambert avait voulu retirer la cage de l'oiseau avant de se mettre au lit. Cette cage était suspendue à un clou, situé en dehors de la fenêtre. À ce moment, avait-elle été prise d'un étourdissement? Avait-elle perdu l'équilibre? Son pied avait-il glissé? Toujours est-il qu'elle était tombée dans la cour, la tête la première, entraînant la cage avec une telle force que le clou avait été arraché du mur. Inutile de dire que la cage avait été brisée en 1000 pièces. Les voisins qui occupaient l'appartement d'en face l'avaient vu tomber et avaient poussé des cris déchirants, mais il était trop tard. Que faire? Notre présence était inutile. Lambert était assis auprès du lit de sa femme, la tête cachée dans ses mains, ne parlant pas, n'ayant même pas la force de pleurer. Je lui serrai la main en silence et nous nous retirâmes. En m'en allant avec Maurice, je ne lui adressai pas la parole. Son visage était blanc comme un linge. En passant devant le ministère, « Oh, j'ai oublié quelque chose au bureau, me dit-il, attends-moi une minute. » Il monta et redescendit presque aussitôt. Nous nous séparâmes sans nous être dit un mot. Le lendemain, je passais chez Lambert en me rendant à mon bureau. Il se jeta dans mes bras et pleura. « Courage !» lui dis-je en pleurant malgré moi. Mais je sentais que les consolations banales n'étaient point de mise en semblables circonstances, et je partis. Naturellement, Lambert ne pouvait venir au bureau de quelques jours. Maurice s'absenta lui-même pendant une semaine. Il ne rentrait pas chez lui. Enfin, au bout de 8 jours, il arriva au ministère. « Écoute, me dit-il, je vais bien t'étonner. Je donne ma démission et je quitte le ministère. »« Impossible, m'écriai-je, quel est ce caprice ? Bon, je veux voyager, je me sens malade. » « En somme, ce que nous faisons ici n'est pas gai, allez, viens avec moi. » Tu as, comme moi, besoin de distraction. J'étais dans une de ces dispositions d'esprit où les résolutions violentes semblent être un soulagement. Je ne sais comment ni pourquoi, mais j'imitais Maurice. Nous envoyâmes tous deux notre démission au ministère, et le soir même, nous partions pour l'Angleterre. Il n'entre pas dans mon dessein de raconter les incidents de nos pérégrinations. Nous visitâmes successivement les trois royaumes, l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Nous passâmes ensuite en Belgique, puis en Allemagne. Au bout d'un an, nous nous trouvions à Francfort, venant de Hambourg, où nous étions restés 2 mois. Nous étions au mois de septembre. Il y avait donc 13 mois environ que nous avions quitté la France. Les premières étapes de notre voyage avaient été dévorées avec une inconcevable rapidité. Maurice m'entraînait comme s'il voulait fuir quelque chose. Je l'avais interrogé, je lui avais demandé s'il était survenu dans son existence un de ces terribles accidents qui font de la distraction une nécessité. Il m'avait répondu négativement, mais je n'avais pu m'empêcher de supposer qu'il ne me disait pas la vérité. Mon imagination était même allée plus loin. J'avais tenté d'établir un lien entre la mort de Madame Lambert et ce départ précipité. Des relations auraient-elles donc existé entre elle et mon ami, sans que je le susse? Ainsi aurait pu s'expliquer aussi l'antipathie que lui inspirait le mari. Mais il était impossible pour moi de m'arrêter à cette hypothèse. À Paris, Maurice vivait en quelque sorte avec moi. Nous ne nous quittions pas, et chacun de nous savait heure par heure ce que l'autre faisait. Alors avait-il donc connu cette pauvre femme autrefois? Et pourquoi m'en aurait-il fait mystère? Ces sortes d'aventures n'avaient jamais été secrètes entre nous, et nous nous faisions part de nos peines ou de nos joies de cœur. Puis Madame Lambert avait à peine 23 ans lorsque la mort l'avait frappée. Elle s'était donc mariée à 16 ans. Comment Maurice l'eût-il connue avant son mariage? J'abandonnais cette supposition. J'essayais plusieurs fois d'amener la conversation sur l'événement douloureux qui avait précédé notre départ, mais à chaque tentative, je remarquais que Maurice détournait la conversation, si bien que je me décidais à m'abstenir de toute allusion à ce sujet. Nous étions tenus régulièrement au courant de ce qui se passait à Paris. Dans chaque ville, nous trouvions des lettres et nous nous les communiquions. Cependant, j'avais cru remarquer que Maurice me lisait presque toujours les siennes et ne les plaçait pas sous mes yeux. Je pensais que, décidément, je ne m'étais pas trompé et que quelque rupture, quelque douleur amoureuse avait motivé son étrange conduite. Je ne m'en plaignais pas, d'ailleurs. Entre-temps, il m'était survenu un petit héritage qui me permettait une certaine aisance, si bien que je ne regrettais ni ma position abandonnée, ni l'intéressant voyage auquel je m'étais si rapidement décidé. Un jour donc, du mois de septembre, Maurice, revenant de la poste où il était allé chercher nos lettres, me dit brusquement « Cher ami, nous repartons pour Paris ». J'avoue que ce nouveau caprice me parut intolérable, et avec une vivacité dont je ne pus me rendre maître, je reprochais à Maurice sa versatilité et surtout la désinvolture avec laquelle il disposait de mon temps et de ma volonté. Maurice leva sur moi ses yeux tristes et profonds. « Oh, pardonne-moi, me dit-il, mais il faut absolument que nous allions à Paris. Dans 8 jours, tu sauras tout et tu me pardonneras. » Mon ami était si pâle, je compris si bien qu'une émotion terrible et involontaire le dominait, que je lui tendis la main et m'empressai de boucler ma malle pour partir le plus tôt possible. Pas un mot ne fut échangé pendant tout le voyage. Maurice était appuyé dans l'angle du wagon que nous occupions. La tête dans les mains, il réfléchissait profondément, Puis il me regardait, me souriait et retombait dans ses méditations. Enfin, nous arrivâmes à Paris. C'était le matin. Nous prîmes une voiture et nous étant fait conduire à notre domicile, nous réparâmes le désordre de notre toilette. Puis nous allâmes déjeuner. « L'heure est venue, » me dit tout à coup Maurice. « Ne m'interromps pas, il s'agit de Lambert. »« Oui, de cet excellent et honnête monsieur Lambert. Tiens, lis cette lettre. » Et il me passa une enveloppe qui portait une date ancienne de 4 jours seulement. C'était évidemment le contenu de cette lettre qui avait décidé notre brusque retour. « Le dernier paragraphe, » me dit Maurice. Voici ce que je lus. « Notre ami Lambert, resté veuf après le terrible accident que vous connaissez, va se remarier. Il épouse Madame Duméril, une veuve qui, dit-on, a quelque fortune. Le mariage se fera dans les premiers jours du mois d'octobre. « Eh bien, » demandai-je à Maurice en lui rendant sa lettre, « connais-tu cette Madame Duméril ?»« Non, pas que je sache, du moins. » Mais c'est cette jeune veuve qui se trouvait chez cet homme le jour où nous y avons dîné. Et comme je semblais attendre qu'il continuât. Mais te souviens-tu de ce que je t'ai plusieurs fois répété au sujet de Lambert ? Oui, tu veux me parler de tes préventions. Je me souviens parfaitement que tu prétendais ne voir en lui qu'un infâme coquin. Mais je suppose que tu as abandonné cette opinion, démentie par tant de circonstances. Si bien démentie que dans quelques heures tu auras la preuve, oui, la preuve, entends-tu bien, que jamais pire misérable n'a existé. Là, je ne te comprends pas. Tu me comprendras. Inutile de te demander si je puis compter sur toi. Là, je voudrais cependant savoir. Aie confiance. T'ai-je jamais trompé? N'étais-je pas toujours prouvé jusqu'ici que je voyais juste? L'air d'assurance avec lequel s'exprimait Maurice laissait si peu de prétexte à l'expression d'un doute que je me décidai à me livrer à lui. « Mais où allons-nous ? » lui demandai-je quand nous sortîmes du restaurant. « Eh bien, chez Madame Duméril. » Je sentis que toute question comme toute remontrance serait inutile. Et je renonçais à deviner son projet.